Vous écoutez
RMC.
Jeudi 20 août,
l'info sur RMC.
L'info à 6h, c'est le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Retour sur terre pour Lyon, battu hier soir par le Bayern Munich 3-0 en Ligue des Champions. Rendez-vous dimanche donc pour une finale royale entre Paris et le Bayern. Et si tous les enfants étaient vaccinés contre la grippe et la gastro, c'est ce que suggèrent les pédiatres. Objectif, faciliter les diagnostics en cas de Covid. Au Mali, l'opposition se félicite du coup d'État. Elle annonce vouloir travailler avec la junte. L'Union européenne, elle réclame le retour de l'état de droit. Bienvenue à tous sur RMC. Il n'y a pas eu hier soir de nouvel exploit pour les Lyonnais qui avaient sorti la Juventus et Manchester City face au Bayern. Les hommes de Rudy Garcia n'ont rien pu faire. Éliminés 3-0 en demi-finale de la Ligue des Champions, la rencontre s'est jouée en début de match. Plusieurs occasions manquées pour les Lyonnais et un dur retour à la réalité avec un doublé de Gnabry et une dernière lucarne signée Lewandowski à la 88e minute. Nicolas Paolo.
Des regrets et de la déception. Malgré le score, les Lyonnais ont su inquiéter le Bayern Munich. Juninho, directeur sportif.
On est tous tristes, mais je pense qu'on sort avec la tête haute. On est tous fiers du groupe. Très triste parce qu'on sait déjà qu'on n'est pas dedans la prochaine Champions League. Mais ce n'est pas la honte de dire qu'on est derrière encore ces équipes.
La rencontre s'est certainement jouée dans les 20 premières minutes. Lyon domine le Bayern et touche même le poteau. Anthony Lopez, gardien de but.
Je pense qu'on peut avoir des regrets sur notre premier quart d'heure parce que c'est vrai qu'on a deux belles situations. Mais voilà, quand on a ces opportunités-là, il faut savoir les mettre au fond et derrière, ça se paye cash. Mais bon, on a espéré jusqu'au bout.
L'épopée européenne se termine sur un goût amer. Le mot de la fin, il est pour Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais.
Bravo à mes joueurs pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré à la France entière.
Lyon quitte la Ligue des Champions la tête haute la saison prochaine. Ce sera devant la télévision que l'OL regardera la compétition. Pour la première fois depuis 22 ans, Lyon ne participera pas à une Coupe d'Europe.
Les supporters lyonnais sont forcément déçus, mais ceux qui ont fait le déplacement à Lisbonne restent très fiers du parcours de leur équipe.
On a un mot à dire, je pensais plutôt merci, c'était marqué sur le maillot. Et ce merci, nous on a envie de l'adresser au club. Il y a eu un gros match, il y a eu une grosse envie, il y a eu une grosse intensité. Et ça pour nous c'est super important. On n'avait pas une ambition dingue, on avait envie d'avoir du vrai football, voir tout ça, et je pense qu'on a été gâtés.
On a du cœur, on a de l'humanité, on a une équipe qui a un corps là maintenant et ça fait plaisir.
L'unité nationale doit effectivement prévaloir dimanche. On a besoin de grands moments, on a besoin de vibrer, on a besoin de partager. Et évidemment, je pense que tous les Français devront être avec le PSG dimanche soir.
Le Paris Saint-Germain qui n'aura sans doute pas raté une miette de la rencontre d'hier soir. Paris qui a l'avantage d'avoir un jour de repos en plus par rapport au club allemand. Kingsley Coman, formé au Paris Saint-Germain, porte désormais les couleurs du Bayern. L'attaquant ne fait pas de sens dans les sentiments. Un seul objectif dimanche, gagner.
Ça sera un grand match, il y a beaucoup de grands noms, il y a beaucoup de grands joueurs, il y aura beaucoup de spectacles je pense et j'espère beaucoup de buts. C'est une belle affiche, après j'espère qu'on va gagner dans le match, il n'y aura pas de Paris ou pas. Mon cœur il est 100% Bayern aujourd'hui et voilà, je vais la gagner.
Et puis notez que si les Parisiens remportent la Ligue des Champions dimanche, ils recevront chacun une prime d'1 million d'euros brut. Encore un mot de football avec un début de saison de Ligue 1 qui s'annonce bien compliqué. Le Nîmes Olympique a fait savoir hier soir qu'il y avait 3 nouveaux cas de Covid-19 au sein de son effectif. 4 au total donc désormais. La tenue du match contre Brest dimanche pour le compte de la première journée est menacée. Ces dernières 24 heures, 3700 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en France. La Direction Générale de la Santé parle d'une progression inédite. Et à un peu plus d'une semaine de la rentrée, bien les pédiatres préconisent de vacciner tous les enfants contre la grippe et la gastro-entérite. Mais les parents que nous avons interrogés ne sont pas du tout emballés par cette proposition. Mao Bécard-Granier.
Pas question pour Nadia de vacciner son fils de 8 ans contre la grippe ou la gastro-entérite, et ce, malgré le contexte.
Non, on vaccinera pas plus que ce qu'il faut. Vaccin obligatoire parce qu'il faut les faire, mais autrement, rajouter d'autres vaccins en plus pour l'enfant, non.
Même réaction pour Marie, elle n'a jamais vacciné son enfant Marc contre la grippe et elle ne le fera pas non plus cette année.
Je pense que c'est pas la bonne solution, c'est pas en vaccinant davantage qu'on améliorera la détection pour moi du Covid, c'est davantage en étant vigilant enfant, en allant voir le médecin dès qu'on a un doute.
Aujourd'hui encore, très peu d'enfants sont vaccinés contre la grippe et la gastro-entérite, ce que regrette Élise Launay, professeure de pédiatrie au CHU de Nantes. Elle craint la surcharge du système de santé si l'épidémie de grippe sévit en même temps que celle du Covid.
Si on a moins d'enfants avec des diarrhées, de la fièvre, on va moins souvent se poser la question, est-ce que c'est un Covid? Est-ce qu'il faut que je fasse le test? Vous lui évitez éventuellement des tests inutiles. Et puis, il y a plus de décès par grippe en 2019 que de décès par Covid. Donc, ça peut paraître justifié de proposer cette protection individuelle et collective dans le contexte de la crise sanitaire.
Les pédiatres demandent également le développement d'un protocole clair sur les mesures à prendre quand un enfant est infecté au sein d'une collectivité.
À partir d'aujourd'hui, le port du masque devient obligatoire dans la rue à Nice. Ce sera le cas à Toulouse à partir de demain. Les professionnels de la culture, plus ou moins rassurés après leur échange avec Roselyne Bachelot, la ministre, leur a promis hier de défendre l'idée de la fin de la distanciation physique dans les salles de spectacle lors du prochain Conseil de défense. Mais cette question ne va pas tout régler. Paul Barcelone.
S'affranchir de la distanciation physique mais conserver le masque, c'est le consensus trouvé par les représentants du spectacle vivant et la ministre de la Culture. Avec de la distance entre les spectateurs, le théâtre, ça ne marche pas, justifie le directeur d'une salle parisienne, qui explique qu'avec seulement 70% de fréquentation, les plus petites structures pourraient être menacées de fermeture. Reste désormais à faire valider cet assouplissement du protocole sanitaire par le Conseil de défense réuni autour d'Emmanuel Macron la semaine prochaine, mais d'autres questions restent à trancher. Les danseurs vont-ils pouvoir se toucher? Comment les comédiens vont jouer sur scène à quelques centimètres seulement de distance? Voilà de quoi encore beaucoup inquiéter les représentants d'un secteur quasiment à l'arrêt depuis 6 mois.
Dans l'actualité également ce matin, l'association L214 de défense de la cause animale publie de nouvelles images insoutenables, celles d'un élevage de canards dans les Pyrénées-Atlantiques. On peut y voir des cages cassées, le sol recouvert d'une couche de 15 cm d'excréments, des animaux, des rats, des asticots et d'autres insectes. Le ministère de l'Agriculture demande à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques une mise en demeure pour aller jusqu'à une suspension d'activité. À Plouz-et-Lambre, dans les Côtes-d'Armor, une enquête a été ouverte mardi après la découverte d'un cheval mutilé. Les faits sont particulièrement violents et sordides. Les meurtres de chevaux se sont multipliés ces derniers mois en France et les enquêteurs n'ont toujours pas de piste sérieuse. Maxime Brandstatter.
En regardant de plus près, les enquêteurs ont dû avoir le vertige. Des affaires de chevaux mutilés, il y en a déjà eu il y a plusieurs années et ailleurs en Europe, chez nos voisins belges et anglais par exemple. En France, le premier fait remonte à 2014, mais la particularité de 2020, c'est qu'il n'y en a jamais eu autant en si peu de temps. 11 font l'objet d'une enquête, mais le syndicat Coordination Rurale en recense plus d'une vingtaine. La plupart du temps, le seul point commun, c'est cette oreille coupée. Tout le reste varie, les mutilations de diverses parties du corps, la mise à mort par arme blanche ou arme à feu, le type d'équidé, un cheval, un poney ou encore un âne. Chaque fois, le meurtre a lieu la nuit, dans des endroits ruraux, souvent dépourvus de caméras et de voisinage, ce qui complique fortement l'enquête, nous confie un gendarme. Les motivations sont pour l'instant difficiles à cerner. Rites sataniques, fétichisme sexuel ou même défis sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, les enquêteurs sont incapables de privilégier une piste.
Voilà, le mystère des chevaux mutilés, on en reparlera à 6h40 avec le président de la Fédération Française d'Équitation, Serge Lecomte.
Au Mali, la communauté internationale condamne le coup d'État. Elle réclame la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est toujours détenu dans le camp militaire de Kati, dans la banlieue de Bamako. On en sait un peu plus aujourd'hui sur le profil des militaires auteurs du putsch. Les précisions d'Antoine Glaser, il est journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique.
Ce sont des militaires de haut rang qui ont fait un coup d'état d'opportunité, de dire voilà, vous voyez, on répond à la rue qui demande la démission du président, ben nous on obtient la démission du président et on va passer à une étape, on rendra le pouvoir aux civils. Sauf qu'en Afrique, on a toujours vu quand il y a eu ce genre de coup d'état, et ben c'est pas demain la veille qu'ils rendent le pouvoir aux civils, ou alors très souvent les militaires veulent se maintenir d'une façon ou d'une autre au pouvoir.
6h08 sur RMC, les grandes marées attendues sur le littoral dès aujourd'hui et pour 3 jours. C'est toujours un spectacle magnifique, mais attention, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la plus grande prudence, notamment pour ceux qui pratiquent la pêche à pied ou qui se promènent sur le littoral. Reportage à Vimereux dans le Pas-de-Calais, Bettina de Guglielmo.
Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, ces touristes viendront, quoi qu'il arrive, admirer la puissance de la Manche.
On est déjà venu il y a quelques années, c'est beau à voir, oui. C'est la mer qui passe au-dessus, c'est la digue, c'est vraiment beau.
Ah ouais, c'est beau, c'est spectaculaire. Il ne faut pas se trouver sur le passage des grandes marées.
Il y a des petits-enfants, tout ça, là, donc on sort avec eux. Ça va être la première fois qu'ils découvrent ça. Donc on va aller aux moules. Les grandes marées, ça baisse beaucoup, donc on récupère de belles moules.
Le coefficient de marée sera deux fois plus important que la normale si cela promet un spectacle. Cela promet également des risques. Rudolf Giollet, président des sauveteurs en mer de la Côte d'Opale.
Ce sera surtout la marée montante, avec les gens qui vont être isolés, qui vont être bloqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude que la mer monte aussi vite et aussi haut. L'autre risque, ce sera la marée descendante, parce que toute cette eau qui est montée, elle va remplir donc des trous d'eau, des bâches, et il va bien falloir que cette eau s'évacue. Donc quand elle va s'évacuer, ça va créer des courants qui vont emmener les baigneurs et les embarcations vers le large.
À Wimereux, la grande marée est prévue demain vendredi à partir de 15h.
Un peu gris dans le Pas-de-Calais.
Mais ça donnait pas très envie tout de suite d'aller en vacances là-bas, mais bon, ça ira mieux demain la météo. Merci Céline Kallmann.